Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Angélus historique ce dimanche, place Saint-Pierre à 11 jours de la fin du pontificat de Benoît XVI, programmé pour le 28 février. L'émotion était palpable. Le pape a appelé l'Église catholique à résister à l'esprit du mal et à se réorienter fermement vers Dieu. C'est la une de ce magazine. Dans la deuxième partie de cette émission, entretien à ne pas manquer avec le directeur de la prestigieuse école biblique de Jérusalem. Benoît XVI a présidé son avant-dernier Angélus ce dimanche à midi. La place Saint-Pierre était noire de monde. Plus de 50 000 personnes se pressaient sous les fenêtres du palais apostolique selon le Vatican. Plus de 100 000 selon la mairie de Rome qui avait fermé à la circulation la Via della Conciliazione, la large avenue qui mène à la place Saint-Pierre. Sur les banderoles, on pouvait lire « Merci, nous t'avons beaucoup aimé. Tu nous as tant donné, tu nous manqueras. » Les Romains étaient particulièrement nombreux. Le maire de la capitale italienne accompagné des membres de l'administration, était venu saluer Benoît XVI.
Grazie.
Interrompu à plusieurs reprises par les applaudissements, Benoît XVI a remercié les fidèles venus lui manifester leur affection et tous ceux qui lui ont manifesté leur proximité spirituelle ou qui l'accompagnent de leurs prières en ces jours si particuliers pour lui-même et pour l'Église tout entière. Hélène Destombes était sur la place Saint-Pierre. Reportage.
À pied, en métro, en vélo, tous les moyens étaient bons ce dimanche matin pour rejoindre la place Saint-Pierre pour assister à l'avant-dernier Angélus de Benoît XVI. Le moment est historique et les fidèles l'ont bien compris. Ils étaient des dizaines de milliers, religieux, jeunes et familles, le regard tourné vers le balcon du palais apostolique. Difficile de se frayer un passage tant la foule était dense. Aux accents italiens se mêlaient quelques voix hispanophones, anglophones, mais aussi francophones, comme celle d'Hervé. Il habite Rome et ce dimanche, il voulait être aux côtés du pape.
De la part du pape, je crois qu'il y avait dans ses intonations un petit quelque chose qui était différent à mon avis. Et puis surtout, je l'ai ressenti chez les gens qui étaient venus et qui manifestement ressentaient quelque chose. Il y a une émotion, il y avait un silence, il y avait des applaudissements. Je n'ai jamais noté des applaudissements comme ça. Et à travers l'applaudissement, ce que j'ai compris, c'est que c'était des applaudissements qui n'étaient pas liés du tout à ce qu'il disait, mais lié à ce qu'il allait faire.
Des applaudissements, mais aussi des cris de joie lorsque le pape est apparu, puis ce silence chargé d'émotion. Beaucoup de fidèles recueillis avaient le visage grave, d'autres souriant, appareil photo à la main, immortalisaient cette rencontre. Benoît XVI a pris la parole, invitant une nouvelle fois les membres de l'Église catholique à se réorienter fermement vers Dieu. Un appel qui a particulièrement touché le père béninois Benjamin Fanignou, profondément heureux de se trouver à Rome en ces heures inédites.
Remettre Dieu au centre de tout. Et ça, il a évoqué encore ces derniers jours. Éviter l'hypocrisie, rester ferme dans ce que nous avions choisi comme vie, donc dans l'Église, et rester toujours collé au Christ dans ce qu'il y a donc de plus essentiel, et à côté donc des différents des points de vue qui peuvent ne pas aller dans la droite ligne donc de ce que nous pensons tous, mais rester toujours attaché à l'essentiel. L'essentiel, la charité dans l'Église.
Le pape a remercié pour les nombreux témoignages d'affection. Ce dimanche, place Saint-Pierre, les « Merci Benoît XVI » se lisaient dans toutes les langues, sur les banderoles et les drapeaux qui s'élevaient dans un ciel azur. Rendez-vous dimanche prochain, mais surtout mercredi 27, pour une ultime rencontre.
Le pape n'a pas évoqué directement son départ, mais ses paroles ne sont pas passées inaperçues quand il a affirmé que dans les moments décisifs de la vie, nous devons choisir si nous voulons suivre notre moi ou bien Dieu, nos intérêts personnels ou le vrai bien. Benoît XVI a mis en garde contre la tentation d'instrumentaliser Dieu pour servir ses propres intérêts, contre le risque d'attacher trop d'importance au succès, au pouvoir ou au bien matériel qui offre une fausse image du bien. Il a appelé les membres de l'Église catholique à se renouveler dans l'esprit et à se réorienter fermement vers Dieu en reniant l'orgueil et l'égoïsme. Cela comporte une lutte, a-t-il dit, un combat spirituel, parce que l'esprit du mal cherche à nous faire dévier de la route vers Dieu. Sa catéchèse, il avait choisi de la consacrer au carême, qui a commencé le mercredi des cendres. Le pape a résumé son allocution en plusieurs langues, dont le français. On l'écoute.
Chers pèlerins francophones, le carême qui vient de commencer est une invitation à donner davantage de temps à Dieu dans la prière, la lecture de sa parole et les sacrements. Par le jeûne, nous apprendrons à ne pas négliger la véritable nourriture spirituelle pour résister aux tentations de l'indifférence et du laisser-aller, de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'argent et du pouvoir. Méditons la manière dont Jésus a surmonté les tentations et demandons-lui la force de lutter contre le mal. Que ce carême soit pour chacun le chemin d'une authentique conversion à Dieu, un temps de partage intense de notre foi en Jésus-Christ. Je vous remercie de votre prière et je vous demande de m'accompagner spirituellement durant les exercices spirituels qui commenceront ce soir. Je vous bénis tous de grand cœur.
Et après l'Angélus, un nouveau tweet du pape a été publié. Le carême est un temps favorable pour redécouvrir la foi en Dieu comme base de notre vie et de la vie de l'Église. Et ce dimanche à 18h ont commencé au Vatican les exercices spirituels de carême auxquels participent le pape et la curie romaine. Ils sont prêchés cette année par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture. Pendant toute la durée des exercices spirituels, les activités publiques du pape sont suspendues. Samedi soir à 18h, Benoît XVI avait reçu en audience privée le chef du gouvernement italien Mario Monti, venu le saluer. Une rencontre particulièrement cordiale et intense, selon les termes du communiqué officiel du Saint-Siège. Mario Monti a une nouvelle fois fait part au pape de la reconnaissance et de l'affection du peuple italien pour son magistère religieux et moral et pour l'attention qu'il porte aux problèmes et aux espoirs de l'Italie et de l'Europe. À l'issue de cet entretien, le chef du gouvernement italien a indiqué qu'il avait constaté combien Benoît XVI était proche de l'Italie qu'il aime et dont il suit l'engagement et les souffrances dans les moindres détails. Benoît XVI et Mario Monti se sont rencontrés à plusieurs reprises. Le samedi 23, le pape recevra la visite protocolaire du président italien Giorgio Napolitano. Il s'agira de l'une des dernières rencontres de son pontificat. La famille est une ressource vitale pour la société. Monseigneur Vincenzo Paglia l'a réaffirmé au siège de l'ONU à New York. Le président du Conseil pontifical pour la famille a participé à une rencontre organisée par la mission permanente du Saint-Siège aux Nations Unies à l'occasion du 20e anniversaire de l'année internationale de la famille. Monseigneur Paglia a insisté sur l'urgence de mettre en place des politiques qui garantissent la protection des droits des familles. Il a dénoncé ceux qui veulent éliminer la famille comme une épave du passé et un obstacle à l'émancipation des individus et à l'instauration d'une société plus libre. Mais en dépit des attaques dont elle fait l'objet, la famille, assure Monseigneur Paglia, occupe la première place dans le cœur des peuples du monde. Un prêtre catholique de l'archipel semi-autonome de Zanzibar a été abattu par balle dimanche matin à l'entrée de son église où il allait dire la messe dominicale. L'abbé Évariste Muchi a été bloqué par deux jeunes hommes à l'entrée de son église. L'un des deux agresseurs lui a tiré sur la tête et le prêtre est mort sur le champ. Au moment où ce magazine a été enregistré, on ignorait les mobiles de l'attaque. Le jour de Noël, un autre prêtre avait été grièvement blessé par balle à Zanzibar. Les autorités tanzaniennes avaient affirmé qu'il s'agissait d'un crime de droit commun sans aucune connotation religieuse. En mai 2012, l'archipel avait été secoué par des violences confessionnelles. Des membres d'une organisation islamiste et indépendantiste locale avaient incendié deux églises lors de manifestations pour protester contre l'interpellation d'un imam. Quelques jours auparavant, le chef de l'église anglicane de Tanzanie avait dénoncé les conditions de vie des chrétiens à Zanzibar. L'invité de ce dimanche est un assyriologue reconnu et spécialiste de Dréhem, le père Marcel Sigrist, dominicain, directeur de la prestigieuse école biblique de Jérusalem. C'est dans ce couvent, situé à quelques pas de la porte de Damas, que le catholicisme a connu sa plus grande révolution contemporaine. Depuis le père Lagrange, fondateur de l'école et grand initiateur de l'exégèse catholique moderne, les dominicains y étudient et font des recherches très pointues. Interrogé par Catherine Aubin, le père Marcel Sigrist nous parle de sa spécialité, la syriologie, de son parcours et des enjeux actuels de l'école biblique de Jérusalem.
Père Marcel Sigrist, vous êtes assyriologue. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Napoléon en 1800, a fait la campagne d'Égypte et cela a produit l'égyptomania, l'énorme intérêt de tout le monde sur les pyramides, les hiéroglyphes. Vers 1850, il y a eu un mouvement un peu similaire pour découvrir la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui. Et là, on a découvert beaucoup de textes, des tablettes, des briques qui étaient inscrites. Et c'est la lecture de ces inscriptions qu'on a d'abord dû apprendre à déchiffrer comme l'Égyptien, qui a donné lieu à la science appelée assyriologie, la parole des Assyriens. Les Assyriens étant, même si les choses sont plus compliquées que je ne dis, les gens qui habitaient dans le nord de l'Irak d'aujourd'hui, c'est-à-dire, on pourrait dire aujourd'hui, Kirkouk, Mossoul. Ça, ce sont les Assyriens qui parlaient la langue assyrienne et la connaissance, la science, le déchiffrement de la culture de ces gens, c'est l'assyriologie.
Quelle est l'importance de ce travail pour l'étude de la Bible ?
L'importance se manifeste de plus en plus aujourd'hui. Et pour commencer, les Juifs ont été déportés à Babylone en 587 par Nabucodonosor. Ils y sont restés 50 ans et après ces 50 ans sont revenus, ont pu revenir grâce à l'édit de Cyrus, retourner à Jérusalem en Palestine. Mais ce qu'on comprend beaucoup mieux aujourd'hui, c'est que ce séjour de 50 ans n'a pas été tout simplement un moment de repos, c'était une aventure intellectuelle et spirituelle extraordinaire. Quand les Israélites sont partis, ont été déportés à Babylone, ils avaient un roi, un temple, un grand prêtre, toute une vie spirituelle organisée. Ils arrivent là-bas, ils n'ont plus rien du tout. Le roi a été enchaîné, ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus rien. Et normalement, quand on dit cela, on dit ben, c'est la fin d'une culture. Mais dans ce cas précis, ça a été l'émergence d'une nouvelle culture. À la place du temple, à la place des sacrifices, il y a eu la loi. Et nous avons tous ces beaux psaumes sur la loi de Dieu que je médite jour et nuit. C'est à ce moment-là qu'a pris forme un nouveau judaïsme qu'on appelle judaïsme rabbinique, où des hommes, des savants, lisent la Torah, lisent les textes et les interprètent en disant aux gens comment il faut vivre selon la volonté de Dieu. Et on vit sans les sacrifices, sans le roi. Et donc, ça a été un moment crucial pour les Israélites. Et quand ils sont revenus à Jérusalem, bien sûr, ils ont reconstruit un temple, ils ont eu de nouveau des grands prêtres, mais cette nouveauté a continué de se déployer. Et ce qui reste aujourd'hui du judaïsme, c'est de nouveau pas le temple, pas les sacrifices, mais l'étude de la loi. Et pour dans le Nouveau Testament, Jésus en parle tout le temps de l'observance de la loi ou de la non-observance de la loi. Mais c'est ça le cœur du judaïsme qui s'est formé ou reformulé pendant l'exil à Babylone.
Vous êtes aussi, Père Marcel, vous êtes le directeur de l'école biblique de Jérusalem.
Oui. Oui.
Vous accueillez donc des jeunes étudiants. Que leur dites-vous pour cette matière, la syriologie?
Tout d'abord, quand c'est des étudiants qui se spécialisent dans l'Ancien Testament, je leur dirais que c'est un domaine auquel on ne peut pas échapper.
Alors ils vous disent, mais pourquoi?
Ben oui, c'est très simple, parce qu'il est vraisemblable que l'histoire du déluge, que cette histoire-là vienne de Mésopotamie. ça finit différemment dans la Bible. Dieu fait une nouvelle alliance avec son peuple. En Mésopotamie, après le déluge, les hommes qui ont échappé au déluge nourrissent de nouveau les dieux. Donc, ça finit tout différemment, mais l'histoire en tant que telle est probablement une histoire mésopotamienne. Et il y a beaucoup de psaumes. Sont des psaumes, vous pouvez remplacer le nom de Dieu par le nom d'un Marduk ou quelque chose comme ça. Ça montre bien que c'était probablement les mêmes formules qui ont été prises, mais transformées pour le Dieu d'Israël. Quand on dit « tu es grand, tu es juste, tu es puissant ».
Alors, Père Marcel, je suis un petit peu bousculé par ce que vous venez de dire, et peut-être les auditeurs aussi, quand vous dites qu'on peut remplacer le nom du Seigneur dans les psaumes par un Dieu de Mésopotamie. Alors, qu'est-ce que notre Dieu, qui est-il ?
C'est à nous de le découvrir. Il est... Peut-être, il y a beaucoup de prières. Si vous prenez des prières que l'on chante au Dieu Tout-Puissant et tous ces adjectifs que l'on donne, je dirais, quel que soit le Dieu, un Dieu doit être cela. Donc, on ne peut pas y échapper à la phraséologie. Mais au-delà de ces qualificatifs que l'on donne, il y a le fait que dans l'histoire biblique, il y a une épopée de ce Dieu avec les hommes. Il a marché dans l'histoire humaine. Ce que nous ne trouvons pas en Mésopotamie, il y a des dieux au ciel, et s'ils sont au ciel, c'est qu'ils sont puissants, ils sont forts et tout cela.
Ils y restent.
Et ils y restent, ils n'ont rien à faire avec l'homme. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui a fait alliance après le déluge, qui a fait alliance avec les hommes jusqu'à Jésus-Christ.
Père Marcel, quand vous regardez derrière vous, quels sont les moments, les études, les rencontres qui ont été pour vous très importantes au cours de votre parcours ?
Ça va vous surprendre énormément ce que je vais raconter. J'ai lu beaucoup de livres comme tout le monde parce que c'est notre profession. Mais j'ai un livre de Marcel Gaucher. Le monsieur est mort. C'est 2-3 livres très difficiles, épistémologie des sciences, et ils m'ont fait énormément réfléchir pour interpréter l'homme, tout simplement. Et je le résume en quelques mots, il voit l'homme fonctionnant à 4 plans, au plan de la parole. L'homme est logique, logos. L'homme est ingénieux. Il fait des choses avec ses mains, il construit des ponts, des maisons. L'homme est social et l'homme est moral. Et souvent, si vous avez ça en tête, quand quelqu'un fait des grands discours, vous dites, mais s'il avait cette idée claire, peut-être qu'il n'aurait pas dit ces choses-là. Surtout, par exemple, la distinction entre social, ce que la société fait, les lois, et le moral qui est la norme que l'homme suit, que l'homme s'impose. Et on vous dit souvent, il y a des choses qui sont que la loi décide, mais qui ne sont pas morales, ou que moi je n'accepte pas. La loi dit, tu peux faire ça. Et moi je dis, non, là je ne me permets pas de faire cela. Donc c'est 2 plans qu'il faut arriver à bien distinguer pour commencer à penser.
Père Marcel Sigrist, quelles sont les perspectives et les enjeux de l'École biblique de Jérusalem aujourd'hui ?
Et aujourd'hui encore, le travail de comprendre les textes, c'est un travail qui ne peut pas se finir parce que nous bougeons et ce que quelqu'un a compris il y a un siècle ne signifiera plus rien pour nous parce que nous avons d'autres questions que nous nous posons. Et donc, chaque homme a un regard nouveau sur le monde et utilise les mots à sa manière et cela produira un nouveau sens.
Le directeur de l'École biblique de Jérusalem était cette semaine l'invité de sœur Catherine Aubin. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Bonne semaine à tous.